Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi, au lendemain du verdict du procès Weinstein. Rendez-vous à partir de 12h55 avec la philosophe et féministe Geneviève Fraisse, qui signe au seuil la suite de l'histoire sur le destin des femmes artistes. Comment se sont-elles appropriées, réappropriées une place dans l'histoire, une esthétique qui est la leur? Mais d'abord, état des lieux du cinéma français, à quelques heures de la 45e cérémonie, j'accélère un tout petit peu le tempo, de la 45e cérémonie des Césars, avec nos deux invités, la productrice Sandrine Brouwer. Elle est cofondatrice du collectif 50-50 pour 2020, créé il y a 3 ans, et à ses côtés, Pascal Rogard, directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dite la SACD. Bienvenue à tous sur France Culture, on est ensemble jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
Une cérémonie des Césars qui aura lieu vendredi, salle Pleyel à Paris, comme chaque année, avec Florence Foresti en maîtresse de cérémonie, et une cérémonie qui s'annonce drôlissime. Entre l'affaire Polanski, la démission annoncée du patron Alain Terzian, la tribune de 400 personnalités du cinéma, membres de l'Académie, de Jacques Audiard à Michel Hazanavicius, de Omar Sy à Cédric Clapiche, une partie d'entre eux sera présente dans la salle vendredi. Ils appellent à changer de toute urgence le système et déplorent n'avoir aucune voix au chapitre ni dans les fonctionnements de l'Académie ni dans le déroulé de la cérémonie. L'humoriste Florence Foresti va donc avoir du pain sur la planche et devoir s'activer sur scène pour tenter de détendre l'atmosphère de cette cérémonie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sandrine Brouwer.
Bonjour.
Bonjour à vous Pascal Rogard.
Bonjour.
Vous y serez vendredi à cette cérémonie, l'un et l'autre. Vous suivrez la cérémonie à la télé ou vous appelez à la boycotter?
Non, on n'appelle pas au boycott, mais enfin, vous savez, moi, effectivement, je suis membre d'un collectif qui s'appelle le collectif 50-50, et donc on a décidé collectivement de le regarder ensemble et on va se réunir pour regarder la cérémonie. On a quand même quelques amis dans la salle et on serait très heureux qu'ils aient des prix d'ailleurs. Donc on va se regarder ça ensemble.
Pascal Rogard.
Bon, ça fait une dizaine d'années que je n'y vais plus parce que je m'y ennuie profondément. Voilà.
D'accord, donc vous ne la regarderez pas, vous ne la suivrez pas.
Ah, je ne suis pas, je ne regarde pas. Et puis après, je lis les journaux, donc je sais qui a été nommé ou pas. Mais je fais demain une soirée avec des amis, on fait des pronostics. Quoi. Et cette année, c'est très compliqué.
D'accord, oui, particulièrement compliqué. Alors que les autres années, c'était très prévisible, les jeux étaient souvent faits d'avance?
Non, les jeux n'étaient pas faits d'avance, mais cette année, c'est compliqué parce que il y a d'un côté les films, et puis je me tourne vers Sandrine, il y a un peu la politique, c'est-à-dire le problème homme-femme et les accusations dont Polanski a fait l'objet, et ça risque de changer ou d'influencer la nature du palmarès. Voilà.
Vous dites que vous ne regardez pas, que vous ne suivez pas, que vous n'y allez pas en tout cas, Pascal Rogard. Pourquoi les Césars aujourd'hui ne servent plus à rien? Il faudrait supprimer cette cérémonie, supprimer ce prix, ces récompenses?
Vous savez, c'est un peu général. Je crois que les cérémonies de récompense, on l'a vu encore cette année pour les Oscars, rencontrent une audience qui quand même est en train de chuter. Sur les Césars, le principe de récompenser les meilleurs films, les meilleurs réalisateurs, les meilleurs acteurs, actrices, je trouve que c'est une bonne chose. Et chaque cinéma national quasiment le fait. Simplement, là, cette année, il y a eu une sorte de révolte du cinéma, de la profession. C'est pas un complot de 2 ou 3 personnes, c'est une sorte de révolte générale contre un système de fonctionnement qui était opaque, clandestin, où les décisions étaient prises sans que la profession y soit associée. Et je trouve que c'est une saine rébellion qui aboutit à un changement de pouvoir en place. C'est comme toutes les révoltes, si vous voulez. Ceux qui sont en place prennent des décisions, mais les prennent toujours trop tard. Et là, ça a été annoncé hier par le président du Centre National du Cinéma. Je crois que l'Académie telle qu'elle constituée va déjà changer de présidence. Donc il n'y aura pas le même président lors de la cérémonie. Et ensuite, il va falloir faire une chose très simple, c'est faire fonctionner la démocratie. La démocratie, ça veut dire que ceux qui sont membres de l'Académie des Césars, académie qu'il faut certainement aussi reconstituer pour y faire régner la parité et vérifier que tous ceux qui font le cinéma français sont bien présents, les membres de cette académie devront élire un conseil d'administration qui lui-même devra élire un bureau et donc un président. Mais c'était pas du tout le système qui existait. On était dans un système féodal, un peu dictatorial, peu transparent, enfin voilà.
Comme souvent dans nos vieilles institutions en France, non?
Les Césars, c'est pas une vieille institution. C'était créé par Georges Craven, ça a été repris par Daniel Toscan du Plantier. Et puis, ce qui est compliqué dans le système des Césars, en fond, c'est qu'il y a deux organisations. Il y a l'Académie elle-même et puis il y a une société qui, elle, gagne de l'argent, rémunère des salariés, dont elle rémunérait d'ailleurs le président, Terzian et d'autres, et elle les rémunérait, elle avait de l'argent grâce à la vente des droits de diffusion pour une très longue période à Canal+.
Là, ce qui se joue en ce moment, c'est aussi cette séparation entre la chaîne Canal+ et le cinéma français. Canal+, très influent depuis longtemps sur ce secteur. Sandrine Brouwer, Pascal Rogard a dit beaucoup de choses. On va essayer de reprendre déjà sur cette annonce qui a été faite hier. Il va y avoir un nouveau président d'ici vendredi. C'est ça, c'est l'annonce de Dominique Boutonnat du CNC.
Oui, alors c'est un secret des dieux, mais si j'ai bien compris, demain, il va se tenir un conseil et ils vont décider d'entériner d'une part la démission collective du conseil d'administration de l'association et donc nommer, j'imagine, des instances temporaires pour la cérémonie, pour la transition à venir. Mais je voulais aussi répondre à votre question initiale. Pascal,
oui, faut-il tuer les Césars
hein, voilà, faut-il tuer les Césars. Moi, en fait, je crois qu'il ne faut pas mélanger, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'on est dans un moment de crise et les crises sont toujours intéressantes parce que ça permet de rebattre les cartes avec tous les arguments que Pascal vient de développer, auxquels j'adhère complètement. Je pense que, en revanche, la question des Césars, c'est vrai que la façon dont le pouvoir était verrouillé, dont la cérémonie se tenait, avait peut-être quelque chose d'incroyablement décalé, qui était complètement anachronique. Et il s'agit pas d'instaurer un moment d'auto-célébration, mais je pense qu'au contraire, c'est un moment qui peut être un moment assez clé, à la fois de réunion de la profession. Encore une fois, on croit beaucoup à la vertu du collectif. Le cinéma est quand même un travail très collectif dans son ensemble. Donc, de réunion de la profession et de réunion avec le public. C'est-à-dire que d'arriver à élaborer un palmarès qui soit les meilleurs films, les meilleurs comédiens, enfin, les films qu'on a envie de mettre à l'honneur. C'est aussi un beau rendez-vous pour réinventer avec le public si cette émission continue à être diffusée en France.
Pourquoi tout le monde tombe aujourd'hui sur Alain Terzian quand il prend la tête de l'Académie en 2003, après 10 ans de Daniel Toscan du Plantier? Il a aussi assaini une partie des comptes, donné un second souffle à cette cérémonie, créée, vous le disiez, en 75, sur le modèle des Oscars. Qu'est-ce qui cloche réellement aujourd'hui pour vous? Vous parlez de crise. Qui a déclenché la crise?
Alors, vous posez la question spécifique sur Alain Terzian. Alain Terzian, c'est le président aujourd'hui, donc c'est normal que ça s'adresse, que les remarques s'adressent à lui. Et puis, il est président depuis un moment, et il est président, le président d'une association, d'une société, avec une articulation que vient de rappeler Pascal, dans lequel, visiblement, les mutations qui ont eu lieu d'année en année, de conseil d'administration en conseil d'administration, sont allées vers plus de verrouillage. Donc, on peut pas, ce verrouillage est quand même une information importante. Et c'est effectivement ce verrouillage-là que nous, on souhaite faire sauter. Quand je dis nous, c'est la profession dans son ensemble, et nous, évidemment, collectif 50-50.
Alors, il y a donc cette démission collective des 21 membres du conseil d'administration qui a eu lieu à la mi-février. Est-ce qu'elle va suffire à calmer le jeu? Il y a en tout cas des promesses de renouvellement, de refondation, de rénovation. On écoute les mots du ministre de la Culture, Franck Riester, le 14 février dernier, qui en appelait à tourner la page.
Il est clair que dans le fonctionnement de l'Académie des Césars pose un certain nombre de questions. Les différents administrateurs ont pris la décision de démissionner collectivement. Je pense que cette décision est sage. J'en ai pris acte et j'ai demandé au président du CNC, au CNC, de travailler avec l'Académie des Césars pour moderniser les statuts des Césars. C'est une institution qui est gérée aujourd'hui par les professionnels du cinéma. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, il faut que cette académie puisse continuer de porter l'image d'un cinéma divers, d'un cinéma qui représente la parité, d'un cinéma qui est symbole d'ouverture et d'adéquation avec ce qu'est la réalité de la diversité de la société française et du cinéma français.
Oui. Voilà, la rénovation, elle est en cours, sous la houlette du CNC notamment. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, Pascal Rogard? À quoi pourrait ressembler cette nouvelle Académie des Césars pour bien tourner?
Moi, vous avez dit pourquoi ça se produit maintenant. Mais parce que, vous savez, c'est le principe des dictatures. Quand elles chutent, c'est assez brutal et on a l'impression que rien ne bouge pendant longtemps. Et puis d'un seul coup, il se produit des choses. Alors, je pense que la première grande erreur qui a été faite par l'Académie, Et la direction, ça a été quand Roman Polanski a été proposé comme président d'honneur. Ça a suscité,
c'était 2017.
Voilà, hein, beaucoup de polémiques. Et ça a montré clairement que la direction de l'Académie n'était pas en phase avec la profession. Voilà en gros ce que ça a montré. Et puis ensuite, moi, j'ai pas cessé d'appeler à plus de démocratie. J'ai réclamé plusieurs fois les comptes parce qu'il y a quand même des producteurs qui payent 7000 euros un coffret. Il y a les membres qui payent une cotisation qui est quand même pas négligeable. Donc, quand vous payez quelque chose, normalement, vous avez des comptes. Dans la moindre association de pêcheurs à la ligne, vous avez des comptes.
Oui, donc tu parles de démocratie, voilà, et de transparence.
Voilà. Et puis d'un seul coup, à la suite encore d'erreurs qui se sont produites, notamment lors du déjeuner des révélations où Virginie Despentes ne faisait pas l'affaire pour parrainer quelqu'un, Claire Denis non plus. Il y a eu une sorte de mouvement de révolte spontanée, hein, c'est pas du tout un complot de la profession. Il y a eu, je crois, la Société des réalisateurs de films qui s'est emparée du sujet, et puis ça a pris, ça fait boule de neige, et comme une avalanche, ça a tout emporté sur son passage. Voilà, c'est il y a un moment où des modes de fonctionnement qui ont été admis pendant 10-15 ans s'avère complètement déphasé par rapport à notre époque. Et ce que dit Sandrine, pour moi, est très juste, c'est qu'il ne faut pas simplement changer les personnes, il faut aussi changer la manière dont on aborde cette cérémonie et en faire peut-être un lieu d'expression du collectif du cinéma.
Parce que quoi ? Parce qu'en fait, cette cérémonie des Césars, vous estimez qu'elle appartient à tous ?
Oui, bah oui, forcément, c'est quand même, si vous voulez, la cérémonie des Césars, elle met à l'honneur les films, elle nous permet de voter pour un palmarès, et ce palmarès se fait à partir de tous les films qu'on fait. Donc on produit 200 à 300 films par an, selon qu'on compte uniquement, les films majoritaires ou minoritaires français. Et ces 200 ou 300 films se font dans des conditions très variées. Donc il y a évidemment un cinéma qui se fait dans une très grande précarité, il y a des films plus luxueux, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle en gros le cinéma français. Donc tout ça, c'est le socle de légitimité de cette manifestation. Donc cette légitimité, elle existe. On a, je pense, un trésor avec tout ce cinéma, et c'est évidemment le moment assez idoine de pouvoir avoir cette photographie annuelle. Mais ce que je voulais aussi souligner, pour rebondir sur ce que disait Pascal, je pense qu'on a assisté à deux mouvements contradictoires. D'un côté, il y a un mouvement où les mœurs évoluent, les temps changent, on demande plus de transparence, plus de démocratie, on a un peu moins envie de se laisser enfumer. Il y a des questions, par exemple, de parité, de diversité, d'inclusion, qui sont de plus en plus criantes et sur lesquelles on a de moins en moins envie d'être tolérant sur des distorsions. Et à l'inverse, il y avait effectivement une Académie des Césars qui opérait un plus grand cloisonnement au fur et à mesure et une plus grosse opacité sur les comptes et sur la façon dont les choses étaient gérées. Donc ces deux mouvements contradictoires ont évidemment mené à la crise qu'on est en train de vivre en ce moment, mais qui pour le coup, à mon avis, doit être aussi le moment où on doit se poser la question de l'objectif. À quoi servent les Césars ? Vous nous posiez la question, est-ce qu'il faut supprimer les Césars ? Est-ce qu'il faut tuer les Césars ? Si la réponse est non, en tout cas, il faut se dire non, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Est-ce qu'on va juste avoir rendez-vous une fois par an pour voter, pour élire les films dont on veut saluer le travail des réalisateurs, des comédiens, des scénaristes et des techniciens ? Ou est-ce qu'on veut, du coup, inscrire dans la durée un travail un petit peu plus de continuité du métier ? On sait qu'on est dans un métier dans lequel l'apprentissage se fait sur le terrain. Est-ce qu'on veut favoriser ça ? Est-ce que l'Académie des Césars, le mot même, la sémantique est intéressante, Académie. Donc est-ce que l'Académie des Césars peut être un lieu de transmission du savoir, de parrainage, de marrainage ? Je voudrais parler de marrainage. Je pense que la sémantique est importante, Pascal, quand on parle de Claire Denis et de Virginie Despentes. Voilà, donc je pense que la question des objectifs est importante.
Et ça, pour qui ? Pour la profession, et c'est aussi le sens de cette Académie des Césars, ou aussi pour le public, parce qu'on a l'impression qu'il est un peu le grand oublié de ce qui est en train de se jouer actuellement. C'est tout aussi opaque ou compliqué à comprendre ce qui se passe au sein du cinéma français aujourd'hui, cette petite révolution, cette crise qui peut amener révolution. En quoi ça concerne le public ? Les spectateurs, les cinéphiles.
Le public, tout l'aspect professionnel de la profession, honnêtement, ça n'intéresse pas le public. Je ne sais même pas si le public savait comment ça fonctionnait. Et d'ailleurs, c'est normal qu'il ne le savait pas très bien, parce que moi, je ne savais pas non plus très bien comment ça fonctionnait. Bon. Simplement, je trouve que l'intérêt des Césars, c'est quand même de mettre un coup de projecteur sur des films, sur des personnes, aussi bien des réalisateurs, des acteurs, des actrices, des techniciens, des techniciennes. Et cet aspect-là, ça peut intéresser le public parce qu'on peut aussi, grâce à cette cérémonie, faire connaître des œuvres qui ne seraient pas forcément connues. Et puis, c'est intéressant pour la profession. Moi, quand je reçois le coffret des Césars, comme il y a énormément de films qui sont produits en France, je découvre chaque année 20 ou 30 films formidables que j'ai ratés. J'appelle des amis, je leur dis, il faut regarder tel film. Et alors après, ils ont du mal à émerger parce que il y a quand même un certain lien entre les films qui sont récompensés et les entrées. Parce que par définition, un film qui a été plus vu en salle, il est aussi plus vu par la profession. Mais je trouve que c'est un espace de meilleure connaissance, même pour nous-mêmes, de notre cinéma.
Et alors cette année, en recevant ce fameux coffret, vous avez pensé quoi l'un et l'autre? Il est beau, le cinéma français?
Oui, il est beau, il est intéressant, il est varié,
il est divers.
Il est riche, il est très divers. Et puis je remarque tous les films que j'ai pas eu l'occasion de voir, parce que je pense que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il sort à peu près une vingtaine de films chaque semaine.
Donc c'est beaucoup, hein.
C'est énorme. Donc réussir à en voir même la moitié, c'est quasiment un pari impossible. Donc vous posiez la question des publics. Je pense que le moment des Césars, c'est aussi effectivement c'est cette mise en lumière de certains films qui ont pu passer à la trappe. C'est aussi peut-être un moment qui peut répondre à ce pacte tacite entre le public et la profession. C'est-à-dire que c'est un moment où on n'est plus dans l'actualité. Vous vous rendez compte, 20 films chaque semaine, il y a une forme de matraquage. Donc c'est vrai qu'une fois par an, si on s'arrête et qu'on se met sur pause et qu'on a cette photographie, c'est aussi une façon de rendre un peu plus vivant ce pacte entre la profession et son public.
Il a composé la BO du film Jeanne de Bruno Dumont, présenté dans la sélection Un certain regard à Cannes l'an dernier. Il en a dit, jouer chez Bruno Dumont, c'est comme travailler avec Godard dans les années 60. Christophe revient avec un deuxième volume de reprise, Christophe, etc., toujours en duo. À vous de reconnaître avec qui pour cette nouvelle version de son tube, Aline.
Sur le sable, son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu.
Gardez. Qui accompagne Christophe sur ce titre ?
Philippe Catherine.
Voilà, la réponse est donc de Sandrine Brouwer, productrice, cofondatrice du collectif 50-50 pour 2020. Notre première invitée, aux côtés de Pascal Rogard, directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques depuis 2004. Christophe, donc ici avec Philippe Catherine, couronné meilleur artiste de l'année aux dernières victoires de la musique, et César, du meilleur acteur l'an dernier pour Le Grand Bain. Un homme complet, Christophe, qui sera en concert mercredi 29 avril et jeudi 30 avril au Grand Rex à Paris.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Un problème de renouvellement et de parité à l'Académie des Césars. Plus de 60% d'hommes à l'Académie, plus de 70% au Conseil d'administration, plus de 80% à son Assemblée Générale. Ce seraient les chiffres pour l'instant. Vous appelez l'un et l'autre à un renouvellement, à une rénovation donc de ce fonctionnement et de ces représentations. Alors qu'elle ne s'exprime plus en France, la réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu a dénoncé dans les colonnes du Guardian, une industrie très bourgeoise, peu de jeunes au pouvoir. Ça, c'est Céline Sciamma qui l'a dit, membre également de votre collectif, Sandrine Brouwer, membre aussi de la Société des réalisateurs de films qui organise la quinzaine des réalisateurs à Cannes, signataire de cette tribune du monde qu'on évoquait en début d'émission. Vous êtes d'accord avec elle, une industrie très bourgeoise, peu de jeunes au pouvoir dans cette industrie.
Oui, mais je pense que on est dans un métier qui mécaniquement est compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans la profession, on est quand même dans une industrie, et du coup, il y a des paris qui sont financièrement lourds, et il y a systématiquement une certaine précaution qui est mobilisée quand on se met à produire, quand on se met à écrire. Et du coup, il y a une forme de conservatisme qui s'exprime dans les choix qu'on peut faire, qui s'exprime dans, du coup, la prise de risque, etc. Donc, par nature, je dirais que le métier ne laisse pas forcément beaucoup de place. Et puis quelqu'un qui a fait un premier film, un deuxième film, un troisième film, enfin, est-ce qu'il faudrait arrêter de faire un film quand on en arrive au quatrième ou au cinquième? Est-ce qu'il faudrait être malthusien par le haut? Enfin, voilà, comment est-ce qu'on gère cette population? Donc oui, il y a une vraie difficulté à faire entrer, à donner une place. Mais après, quelle est cette place? Comment on la quantifie? Comment on la décide? Elle est très compliquée. Donc on est dans un endroit où il y a... par nature, beaucoup de propositions, moins de films qui se font que de films qui voudraient se faire, et on peut regretter quand même, effectivement, chaque année, on voit bien que la question et de la jeunesse et de la diversité est insuffisante.
Mmh. Ça, c'est Adèle Haenel qui joue dans le film Portrait de la jeune fille en feu, qui, elle, s'exprime là, dans les colonnes du New York Times, et qui estime que la France a complètement raté le coche de MeToo. Vous trouvez que rien ne bouge aussi, ou quand même? Il y a des changements qui sont en cours, des évolutions qui sont perceptibles.
Les évolutions sont en cours, mais quand elle dit louper le coche, je reste quand même assez d'accord avec elle. Je pense que quand on a loupé le coche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu l'ampleur de ce qu'on appelait l'affaire Adèle Haenel, c'est-à-dire l'ampleur de son analyse, l'ampleur de l'enquête faite par vos confrères de Mediapart. Il a fallu l'ampleur de l'intelligence qu'elle a déployée pendant l'heure de son live sur Mediapart.
Voilà, c'est sur Mediapart qu'elle a pris la parole pour affirmer, dire qu'elle avait été victime de harcèlement sexuel et d'attouchement de la part de Christophe Ruggia, un réalisateur avec lequel elle avait... travailler.
18 ans auparavant. Mmh. Donc il lui a fallu 18 ans aussi pour élaborer et structurer sa pensée. Et je pense que rien que cette idée-là, elle est quand même assez vertigineuse. Quand elle parle de louper le coche, c'est qu'effectivement, elle a été peut-être la seule à avoir ce rapport de force qui change la donne, à avoir cette clarté de vue, cette hauteur de vue qui change la donne. Et je pense qu'il y a une page qui est en train de se tourner. Donc il y a un décalage dans le temps avec ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est vrai que MeToo a été pour nous une inspiration quand on a créé le collectif 50-50. C'était l'idée de se dire qu'est-ce qu'on peut faire nous, comment on peut s'approprier ces questions, comment on peut changer la donne nous ici. Et ça a été effectivement quelques mois après MeToo, donc on a mis plus de temps. Et la grande actualité aux États-Unis avec notamment le procès de Weinstein, la condamnation qui est tombée hier, qui est une condamnation partielle, il n'est pas coupable sur tous les chefs d'accusation, mais c'est quand même un événement assez majeur, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut se dire que ça vient légitimer, si vous voulez, ça vient légitimer tout ce travail des associations et de la prise de parole, de la prise de risque et de la sororité qui s'est déployée pour pousser les victimes à prendre la parole. Et donc cette affaire Weinstein et ce procès qui a eu lieu aux États-Unis, c'est vrai qu'en France, pour l'instant, on n'a pas encore eu d'affaire. Donc on voit bien que ce décalage dans le temps est réel.
On n'a pas encore eu d'affaire, mais on a en filigrane toujours cette affaire Polanski qui fait débat. L'écrivaine Virginie Despentes, vous l'évoquiez tout à l'heure, Pascal Rogard, elle aurait dû être la marraine d'un des jeunes acteurs qui a été retoqué par elle, hein, par l'Académie du Dîner des Révélations, ainsi que la réalisatrice Claire Denis, Tollet, qui pour en décider, ce refus de l'Académie a été jugé discriminatoire. En décembre dernier, elle dénonçait sur France Inter le retard à l'allumage post-MeToo du cinéma français et l'indulgence du milieu à l'égard de Roman Polanski, réalisateur de J'accuse.
Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les hommes, en tout cas les hommes de pouvoir, écoutent beaucoup ce qui est dit. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt en train de s'agacer de ce que ça dure un peu longtemps. Je crois qu'ils sont en train de se redire. Je crois qu'on peut, comprendre le film de Polanski comme ça. Quand Polanski décide de faire un parallèle entre le féminisme et l'antisémitisme et qu'on lui donne 22 millions pour faire son projet et que toute l'industrie du cinéma se met derrière lui pour dire on va y aller vraiment, je crois qu'ils sont en train de nous dire vous allez fermer vos gueules. Je le prends comme ça, moi, en tout cas. Et c'est pas le film en lui-même me dérange pas, Polanski en lui-même, je m'en fous. Mais je vois que l'industrie du cinéma, c'est comme ça que je l'entends, et nous dit, putain, vous allez fermer vos gueules.
Alors, féminisme, antisémitisme, juste pour comprendre, Virginie Despentes fait référence au parallèle soulevé par le philosophe Pascal Bruckner dans le dossier de presse entre l'affaire Dreyfus et le macartisme néo-féministe dont Roman Polanski serait l'objet. Polanski qui avait plutôt acquiescé, hein, dans ce dossier de presse, se disant familier avec un grand nombre de rouages de l'appareil de persécution montré dans le film, dans son film, et que cela l'avait clairement inspiré, Pascal Rogard. Est-ce qu'il y a crispation, vous la sentez en ce moment, voire recul,
non,
retour en arrière?
Non, je ne sens pas du tout un recul. Vous savez, à l'SACD, on avait, il y a à peu près une dizaine d'années, commencé à interpeller les pouvoirs publics sur le sujet. On avait fait une brochure qui s'appelle « Où sont les femmes ?» et qui visait d'abord le spectacle vivant, parce que dans le spectacle vivant, ce sont les autorités publiques qui nomment. Et on avait constaté qu'il y avait très peu de femmes qui étaient à la tête des centres dramatiques. Et qu'en plus elles étaient à la tête d'un centre dramatique, c'était en général ceux qui avaient le moins d'argent et de ressources pour se financer. Et je trouve que grâce à l'action de plusieurs ministres qui étaient chargés de ces sujets de droits des femmes, il y a des législations qui ont été adoptées. Par exemple, dans les commissions qui attribuent les aides, maintenant, il faut que les commissions soient paritaires. Et si elles ne sont pas paritaires, l'aide, normalement, doit être annulée. Il y a des quotas, des quotas qui s'instituent, avec des améliorations de financement pour ceux qui les respectent. Et je pense que des mesures sont en train d'être prises, mais c'est encore pas suffisant, parce que pour inverser une tendance lourde qui date peut-être de quelques siècles...
Ça va mettre du temps.
Ça met beaucoup de temps.
Sandrine Brouwer.
Oui, mais Pascal fait référence effectivement à des décisions qui sont prises en haut lieu, mais je peux, enfin, le lien, si vous voulez, entre parité et violence, et violence faite aux femmes, et question de domination masculine en général, tout est... d'une certaine manière liée. Donc il y a les décisions de parité dont tu parles, Pascal, mais il y a aussi des questions de comment est-ce qu'on prend en charge la question du harcèlement et comment est-ce qu'on lutte contre le harcèlement. Et c'est vrai que vous parliez de Virginie Despentes à l'instant, on a aussi Adèle Haenel en tête, et on est dans un grand moment où le harcèlement ne doit plus être une hypothèse. On est dans un moment où il faut s'outiller et comprendre quelles sont les mesures à notre disposition et quelles sont les lignes qui ne peuvent plus être franchies. On ne peut plus avoir de permissivité sur ces questions-là.
Pour s'en protéger. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pascal Rogard. Merci Sandrine Brouwer d'avoir été avec nous. Émission à retrouver, réécouter si vous le souhaitez sur franceculture.fr.